Non, c'est vrai que déjà, on a tellement de paroles. C'est magnifique. Hein? On a tellement d'encouragement, des paroles de ces chants. Ça dit beaucoup. L'amour infaillible qui est offert. Et ce matin, c'est vrai, on a toujours quelquefois un peu de tristesse dans nos cœurs quand on pense aux gens qui passent par des difficultés, nos amis, même nous-mêmes, quelquefois, on dit, mais Seigneur, pourquoi la vie n'est pas simple? On est juste dans la joie tout le temps. Mais bon, ça fait partie de la vie. Il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Mais au-delà de tout cela, il y a une chose qui reste constante, et ça, c'est vraiment l'amour infaillible de Dieu. Et c'est ça notre ultime réalité, n'est-ce pas? Notre ultime réalité n'est pas la réalité de chaque jour, même si c'est bien réel, hein? C'est bien réel, mais l'ultime réalité, on voit ça même à la fin de la Bible, c'est un monde sans larmes, c'est un monde où tous les cœurs sont guéris, et un monde de joie ineffable pour l'éternité. Bon, c'est un mystère, hein? Je ne sais pas comment on va vivre ça, mais c'est par la foi aussi que nous vivons déjà ce monde, nous vivons déjà le ciel. Le ciel n'est pas juste futur. Je ne suis pas juste dans une salle d'attente, hein. C'est déjà dans mon cœur. Le ciel est déjà dans mon cœur. Et donc, progressons ensemble dans cette expérience des petites gouttes du ciel qui tombent dans nos cœurs. Vous savez, après les besoins physiques, on a tous des besoins physiques. Il faut manger, il faut respirer, il faut avoir de l'air. Il faut avoir un abri aussi, il faut être en sécurité. Mais après ces besoins de base, on a deux grands besoins. C'est un besoin d'être aimé, d'être relationnel. Hein, on n'est pas fait pour être seul. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour vivre dans la solitude. Et donc on a besoin d'être aimé, de pouvoir creuser des relations autour de nous, sociales. On a besoin d'être dans une famille. Mais on a aussi besoin d'avoir un sens à notre vie, de se réaliser, de s'accomplir. Ça, c'est les deux grands cris de nos cœurs. Les deux grands cris, je veux être aimé, je veux avoir un sens à ma vie. Et quand ces deux choses sont un peu bousillées ou fatiguées, c'est difficile pour nous. Quand on ne se sent pas aimé, on dit, mais à quoi bon cette absurdité de vie que je vis, j'ai aucun sens. Et on a besoin de retrouver un contexte pour ces deux choses. Et c'est pas facile de trouver un contexte dans ce monde pour être aimé et pour avoir un sens à sa vie. Hein, il y a beaucoup de choses, de forces qui veulent nous cataloguer. Allez, tu vas dans cette direction. On a souvent pas le choix. Mais je dirais, l'évangile, connaître Jésus, ça crée un contexte plus grand pour nous d'avancer dans l'appropriation de ces deux choses, d'être aimé et d'avoir un sens. Et ce matin, j'aimerais vous lire un psaume. Hein, j'aime beaucoup les psaumes de David. Ce sont des chants de joie, hein, des proclamations. Et donc, David, il y a un psaume qui est une sorte de cri pour un contexte pour sa vie. Il cherche à avoir un vrai contexte pour sa vie. Et quand je lisais ça cette semaine, j'étais tellement encouragé parce que je trouvais mon propre cri de cœur dans ce psaume. Et il y a les gens qui disent, moi je ne prie pas, je ne sais pas comment prier, mais le cœur prie tout le temps, nos cœurs prient tout le temps, même l'athée, son cœur prie, parce que souvent il est frustré, ou il crie après l'amour et un sens. Et quelquefois on trouve nos prières là-dedans, on n'a pas toujours les paroles, mais souvent on a une souffrance, ou une frustration, ou une angoisse, parce qu'on n'est pas assez aimé, parce qu'on n'a pas assez de sens. Et ça peut devenir une prière en nous. Et si on croit en Dieu, si on a la foi en Jésus, on sait qu'on donne ces choses à Dieu. On dit, mais Seigneur, aide-moi à trouver un meilleur contexte pour être aimé, un meilleur contexte pour avoir un sens à ma vie. Et donc, voici le cri de cœur de David. Je vais le lire, hein, c'est le psaume 84. Je vais lire tout le psaume, hein, tout le psaume. Psaume 84. Hein, Hein, normalement, on devait chanter ça, mais je vais vous épargner. Hein. Et donc, combien tes demeures sont chéries, éternelle des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. On pouvait méditer ça tous les jours. Mais je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui est proclamé par le roi David. Mais je dirais que ça commence avec un cri de cœur pour l'intimité. Un cri de cœur pour connaître Dieu. Et il dit « Combien tes demeures sont chéries ?» Il veut demeurer quelque part. Je ne sais pas où tu demeures. Il y a une émission. Non, je demeure chez toi ce soir. Un gars qui se balade. Ouais, je vais dormir chez toi. Et donc, où est-ce que je demeure? Et donc, Jésus, il a, même quand il parlait dans l'évangile de Jean, il parlait de demeurer. Il utilise ce mot demeurer plusieurs fois. C'est en Jean 15. C'est pas grave. Hein, je vais juste dire quelques phrases de Jean 15. Il dit qu'il est comme le cep et que nous sommes comme les sarments. Et comme un sarment demeure dans le cep, il dit, vous devez demeurer dans ma vie, dans une relation avec moi. Parce que lui, il est le cep, il a ses racines qui se plongent dans toute la richesse du sol. Et il dit, si un sarment ne demeure pas sur le cep, oh, il n'y a pas de vie. Et donc il dit, voilà, je vous porte. Hein? Et après, verset 4 de Jean 15, il dit, demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Et donc moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc c'est difficile d'être vraiment, comment je peux dire, comblé dans l'amour et un sens à la vie, si on est séparé du cep. Bon, on peut avoir d'autres cepes, on peut avoir le matérialisme, le plaisir, toutes sortes de choses que le monde offre. On voit qu'il y a beaucoup. On doit demeurer quelque part. On ne peut pas vivre dans l'air. On demeure, on a nos racines plongées quelque part. Mais Jésus dit, allez, plonge tes racines en moi. Je suis le vrai cep. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc il dit, si vous demeurez en moi, vous avez cette capacité surnaturelle qui est la prière. Et moi je crois à la prière. La prière qui va au-delà de ce que peut-être un médecin dit, même si je suis très reconnaissant pour les hôpitaux, on n'est pas contre ça, mais ça nous donne une espérance au-delà des réalités matérielles, et on a besoin de ça. Et après, verset 9, il dit, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » C'est là où les demeures de Dieu sont chéries, parce qu'il faut demeurer dans l'amour. Et il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc si nous voulons rester dans les demeures chéries de l'Éternel, il faut rester dans l'amour. Et est-ce que c'est l'amour à l'eau de rose? Je t'aime moi non plus, hein? Je ne sais pas. Mais il dit, voici l'amour, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas juste d'aimer Dieu. Il y a ce défi, c'est facile d'aimer Dieu, il n'est pas toujours là. Si, il est toujours là, mais tu vois, il est un peu en haut. Et c'est ma femme qui est à côté de moi, c'est mes enfants qui sont là tout le temps. Et le défi de l'amour n'est pas forcément d'aimer Dieu, c'est d'aimer les gens autour de nous. Mais ça, c'est la clé aussi pour aimer Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et après, il définit cet amour. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ce n'est pas forcément être le martyr, mourir physiquement, mais c'est de se donner à l'autre. C'est impossible de trouver un sens à notre vie sans se donner. C'est l'égoïsme nous donne un très mauvais sens à notre vie. L'égoïsme nous donne un très mauvais sens. Les gens qui disent « moi, moi, moi », ils finissent en voie sans issue, même si ça commence bien. Mais si on cherche à servir l'autre, surtout ceux qui sont proches de nous, dans la famille et parmi nos amis, on va retrouver le bonheur et un vrai sens à notre vie. Parce que le vrai sens à la vie, c'est d'être aimé et d'aimer en retour. Et on trouve un contexte d'amour. Et donc ce psaume commence avec ça. Combien tes demeures sont chéries, éternelles des armées. Je veux rester, je veux demeurer avec toi dans l'amour. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Il y a un vrai soupir après Dieu. J'ose pas vous demander quels sont vos soupirs. Parce que bon, on peut avoir deux sortes de soupirs. Hein. Moi, j'ai des soupirs charnels quelquefois. C'est... Ouh. Des soupirs qui peuvent, si je laisse tout ça, si je laisse mes soupirs charnels diriger ma vie, je suis assez malheureux. Même si ça peut commencer avec un peu de bonheur, bon marché, ça finit avec « oh, qu'est-ce que je fous ici ?» Mais on a d'autres soupirs, on a des soupirs de l'esprit en eux. Dieu est spirituel, et même l'homme, il est spirituel. On a un esprit en nous. Et il dit dans la Bible « marcher par l'esprit ». Et donc, il faut cultiver ces soupirs spirituels. Mon âme soupire après Dieu. Mon âme soupire auprès du Dieu vivant. Auprès de cette vie, quoi. Cette explosion de vie. Et donc là, on sait, on peut juger notre progression spirituelle. Parce que là où il y a une progression spirituelle, il y a les débuts de soupir après Dieu. Mais voilà, j'aime être dans ta présence. Ce n'est pas forcément dans l'église, mais quelquefois on peut aller se balader, on voit le lever du soleil, on voit les oiseaux qui vont. Et on est en contact avec la vie. Et quand je me suis converti, quand j'ai trouvé Jésus, moi je ne connaissais pas la vie, moi je pensais connaître la vie, hein. J'avais 23 ans, je pensais que je vivais, je mangeais, je buvais, je faisais comme tout le monde. Mais en trouvant Jésus, oh, c'est comme si j'étais traduit dans une nouvelle qualité de vie. Tu sais, les oiseaux chantaient. J'écoutais les oiseaux pour la première fois peut-être. J'appréciais la beauté des autres personnes. Et surtout, je voyais qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui m'aimait. Et que je pouvais avoir une relation vivante avec lui. J'ai trouvé la vie. Et quand on goûte à cette vie, on soupire après plus de cette vie. Ma vie est quand même, même vos vies, hein. La vie du chrétien, c'est un soupir continuel après Dieu. Ce n'est pas des lois, des interdits, il ne faut pas faire ceci. Si, ça c'est le légalisme. Ça ne sauve personne, ça condamne. Mais le chrétien, il est celui qui soupire après la vie. Et ça nous donne un sens aussi de vraiment vivre. C'est un lieu de sécurité. C'est de demeurer en Dieu, l'intimité. Il dit, le passereau même trouve un gîte. L'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. C'est un lieu de créativité. On peut enfanter dans la présence de Dieu. C'est là où on a les... C'est quelquefois, quand je vois les hirondelles, comment ils posent leur nid, on dit, mais c'est précaire, tout ça. Ça va tomber. Mais quelquefois, nos vies semblent tellement précaires dans ce monde. Précaire dans ce monde. C'est tellement difficile, on dit, ah, mais du jour au lendemain, quelque chose peut exploser. Voilà, on se sent harcelé. Mais bon, Dieu est là. Quand on est aimé par Dieu, ça donne une sécurité. Ça donne une protection. Et donc, quand on est aimé, on a un lieu, on peut demeurer dans les parvis, dans la présence de Dieu. Bon, on ne va pas forcément dans un temple. C'est pas en allant dans un temple qu'on trouve... Bon, c'est bien d'être ensemble ce matin ou dans une église. C'est bien les églises, mais c'est que des bâtiments. Ce qui est important, c'est la présence de Dieu. On peut trouver la présence dans la Sainte Cène, dans la parole. Mais la présence est surtout dans la communion fraternelle. Et bon, je dirais que Jésus, il est présent dans sa nature, dans sa création. Et donc, chaque jour, c'est pas juste le dimanche, mais chaque jour de demeurer dans cet amour, dans cette présence de Dieu, dans cette sécurité, dans cette créativité, dans cette vie. Et après, la mission trouvait un sens à partir de verset 6. Il dit, « Heureux les hommes dans la force et en toi. » Et Néhémie disait, « La joie du Seigneur est ma force. » La joie du Seigneur est ma force. C'est quand on est trop découragé par des circonstances, des nouvelles, la télé, les actualités, BFM... C'est tout le reste. On est découragé, on est faible. Le découragement nous affaiblit. Mais la joie de l'Éternel, quand on se sent aimé, ça nous fortifie. Et ça nous fortifie pour accomplir des œuvres. Qu'est-ce que c'est votre destinée? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour ma vie? Qu'est-ce que c'est le sens de ma vie? Qu'est-ce que c'est ma mission? Quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves ce matin? C'est jamais trop tard pour rêver. On peut rêver à 18 ans, on peut rêver à 30 ans, on peut rêver à 50 ans, on peut rêver à 60 ans, on peut rêver à 80 ans, on peut rêver à 90 ans. Ce n'est jamais trop tard pour rêver, pour rêver. Quels sont vos rêves? Et on ne sait pas, c'est difficile. Je cherche un contexte pour mes rêves. Si vous voulez trouver vos rêves, il ne faut pas regarder plus loin que votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Parce qu'il dit, les hommes dans la force et dans l'Éternel, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est, il y a quelque chose, cette relation avec Dieu, ça trace déjà une destinée. Dieu, il a des projets. Et il faut demander au Saint-Esprit, regarde dans mon cœur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Et il y a des chemins tout tracés. Je pense que c'est une grande bataille. Parce que le monde, le péché, toutes les mauvaises choses, ils ont aussi des chemins tout tracés. Je peux vous dire que si vous faites certaines choses, si vous êtes infidèle et tout ça, il y a des chemins tout tracés pour des séparations, des bêtises. On voit ça. Si on a dans nos cœurs des certaines choses, et comme je dis, les désirs trop charnels, ça va nous pousser à des chemins tout tracés de désastre. Et donc il faut, voilà, changer de rail. Il faut être dans le soupir de Dieu et trouver le cœur renouvelé avec des chemins de bénédiction tout tracés. C'est une grande bataille, ça. Tout le monde lutte. Mais Seigneur, que je trouve les vrais rêves, ma destinée, un vrai sens de ma vie en toi. Vous avez dans votre cœur des chemins tout tracés. Chaque être humain est tellement précieux. Je vois Max là, qui joue, il a des chemins tout tracés dans son cœur. Un jeune homme, il peut choisir la bonne voie et avoir des chemins de bénédiction. Et voilà, les chemins de vie ne sont jamais faciles. Et il parle ici des gens, et peut-être c'est l'essentiel de ce que je veux dire ce matin. Il dit, lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et donc cette vallée de Baca, voilà, c'est un lieu, Baca, hein, la vallée de Baca. Mais Baca en hébreu, ça veut dire larme. Larme, Baca, larme. Et chacun de nous, il y a des jours, des semaines, même des années, où nous traversons une vallée de larmes. Ça arrive, hein. Tout le monde peut témoigner de ça, que chacun de nous, nous avons nos vallées de Baca. Et ce n'est pas quand on est bas, il n'y a plus de lumière, il n'y a que des larmes. Mais il dit, ceux qui ont leur cœur, qui ont trouvé leur demeure dans l'Éternel, il dit, ils en font une oasis. Est-ce que c'est possible quand même que toutes les larmes qu'on pleure, toutes nos souffrances, c'est une sorte de capital pour l'avenir? Ça peut être une oasis de bénédiction pour l'avenir. Il faut beaucoup de foi pour croire ça, hein, parce que c'est tellement horrible quelquefois dans la vallée de Baca. Mais j'en suis convaincu que dans ce monde, ou dans le monde à venir, nous préparons des oasis pour nous-mêmes et pour d'autres. Moi, j'ai souvent été rafraîchi auprès des personnes qui ont souffert. C'est comme si leurs larmes du passé ont créé une oasis de bénédiction qui coule de leur cœur. C'est incroyable, les personnes qui ont été humiliées quelquefois par la souffrance, qui ont appris à vivre, à vaincre, ils ont beaucoup à donner. C'est comme si tu es dans le désert de ce monde et tu tombes sur une oasis. Ah, je suis rafraîchi. Il y a les gens comme ça. Ils ont, je dirais, le cœur oasis. Et je pense que c'est souvent les gens qui ont bagarré dans la vie, qui ont surmonté pas mal de choses. Et c'est comme ça que je comprends ce verset. Mais aussi, je dirais, pour le monde à venir. Et ça, c'est encore un mystère, il faut la foi. Parce qu'il y a des gens, je dirais, ils ont pleuré toute leur vie ici. Moi, je connais les gens qui n'ont jamais eu un jour de bonheur, il semble. Les gens qui, en Afrique, j'ai des collègues, et je dis, mais leur vie est misérable de A à Z. C'est très difficile. Et peut-être ils ont beaucoup pleuré toute leur vie. Mais moi, je suis convaincu que ceux qui ont beaucoup semé en larmes, c'est un capital pour un bonheur céleste. Et si on ne croit pas ça, qu'est-ce qu'on a à croire? Parce que l'alternative n'est pas très jolie. C'est une absurdité de vie, sinon. Il faut suivre Sartre et les existentialistes, sinon. Mais d'avoir cette espérance que ça peut servir à quelque chose quand même, ces misères. Et on est quand même béni si on peut déjà dans ce monde faire une oasis de nos souffrances. Si déjà dans ce monde, témoigner, voilà, c'était un coup dur, mais je vois comment j'ai traversé cette vallée. Et voilà, ça a ajouté quelque chose à ma vie. Ça a ajouté quelque chose à mon caractère, à ma qualité d'aimer et à ma personne. On ne peut pas toujours dire ça, parce que quelquefois il y a des luttes trop difficiles. Et je ne veux pas offenser les gens qui sont très dans la souffrance, mais il faut espérer. Parce que nos larmes, plus on pleure, plus on crée une oasis future. Et c'est ce que David a trouvé, notre mission là, dans la vie. Lorsque vous traversez la vallée du Baca des larmes, Dieu il fait une oasis de tout ça. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et après il parle de cette force. Les hommes qui ne marchent pas en Dieu. Il dit, leur vigueur ne cesse de croître. Et là, je pense à Odette, quand elle a prié ce matin. J'ai dit, mais quelle vigueur! Avec tout ce qu'elle a vécu, avec toutes les difficultés d'une vie.
Je peux vous témoigner.
Allez.
Quand Dieu, t'es déjà pas facile de refaire ta vie. Quand on a perdu son compagnon, il faut tout recommencer. quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus rien, vous mangez tout seul, même les enfants parfois, mais on les aime avec leurs différents. Voilà. Là, en 2007, j'ai fait un infarctus de l'intestin. Après le décès de Gilbert, 3 ans après. En 2010, j'en ai fait un autre. Et là, je viens de passer des examens importants et on me dit qu'il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a même pas d'infection à l'intestin. Ça va, maintenant, il faut aller rechercher pourquoi j'ai des problèmes. Mais j'ai toujours eu confiance en Dieu. Et mon mari était croyant. Et il me dit, parce que moi, je ne suis pas d'une famille... Non, pas du tout, mais c'est Gilbert qui m'a montré la route. Et il vit à travers moi, malgré tous mes problèmes, parce que c'est pas facile, la vie. La vie est un combat, et un combat tous les jours. Amen. Mais chaque jour, voilà, je prie le Seigneur, pas seulement pour moi, parce que moi je sais, Dieu donne et Dieu reprend. Il m'a fallu longtemps pour comprendre ça, parce que je ne comprenais pas quand on m'a pris Gilbert, on me l'a pris d'un coup. Et ça, je disais, pourquoi ? Pourquoi lui qui était un homme fidèle, un homme juste ? Et puis, je ne comprenais pas cette chose. Il m'a fallu des années pour comprendre. Et maintenant, je remercie Dieu. Chaque instant de ma vie est là. Là, Valérie est partie. Mais il me dit, tu sais maman, s'il y a des mauvaises nouvelles, je ne partirai pas. Je resterai à côté de toi. J'ai promis à papa, veiller sur toi. C'est quand même une grâce de Dieu. Ouais. Avant de partir, elle me dit, chose qu'elle ne me dit jamais, elle me dit, je vais aller à la cave parce que je vais regarder à tes grilles, maman. Elle s'en va à la cave, elle remonte, j'étais malade, je vomissais, j'étais sur le seau. Enfin, j'étais dans un triste état. Elle me dit, écoute, maman, pleure pas. Il y a 20 cm d'eau à la cave, dans tous mes états. Elle dit, mais ne pleure pas. À 9h au soir, pour veut dire la providence, à 9h au soir, elle dit, il y a des gens d'astreinte dans les eaux du Nord. Elle téléphone. À 9h, la dame lui dit, dans le quart d'heure qui suit, je vous envoie quelqu'un. Un quart d'heure après, moi j'étais là-haut malade, le monsieur vient, il dit, ben écoutez, vous avez de la chance, j'habite pas loin de chez vous.
Ah, c'est bien.
Donc il répare, c'était la valve qui était cassée, donc il répare tout. Et il dit, c'est encore la providence. Et il dit à Valérie, c'est pas mon camion, mais je vais regarder s'il y a une pompe, parce qu'il fallait enlever toute cette eau. Il revient, puis il dit, vous avez beaucoup de chance, il y a une pompe dans le camion. Donc ils m'ont enlevé tout l'eau. Ben je dis, merci Seigneur, parce que c'est quand même une grâce, toutes ces choses-là. Moi j'y crois de tout mon cœur, voilà. C'est tout. C'était mon témoignage, voilà. Et je dis à Valérie, merci à ce monsieur, il nous a raconté un peu sa vie, vous voyez. Et je suis partie à l'hôpital mercredi. Mais avec confiance, j'ai demandé à Dieu, j'en avais assez de tout ce que j'ai passé. Alors, plus jamais toutes ces choses-là, j'en ai déjà assez avec ce que j'ai dans la tête et puis autres. Mais Dieu pourvoira mes besoins et il a pourvu à mes besoins. Voilà, et j'y crois de tout mon cœur. Voilà, il est avec moi à chaque instant de ma vie. Même la nuit, il est à côté de moi parce que je vous assure que ce n'est pas facile de vivre ce que je vis, parce que je ne peux pas faire comme tout le monde, partir promener, parce que mes enfants ne me laissent pas là, veulent bien me prendre en vacances, mais je ne peux pas. Mon fils est parti en Corse, m'a dit, maman, je ne peux pas prendre l'avion, je ne peux pas prendre le train. Donc c'est difficile, mais Dieu, il m'aide chaque instant de ma vie. Amen. Et je le remercie. Voilà.
Oh, Mathieu,
je voulais témoigner de toutes ces choses-là. Merci Seigneur,
merci.
Et merci pour cette force que tu me donnes à chaque instant.
Amen.
Merci à toi.
Amen. C'est bien. Leur vigueur ne cesse pas de croître. Hein? Amen. Leur vigueur ne cesse pas de croître. Et on peut surmonter, on peut avoir cette vigueur. Et pour terminer, hein, il y a David, Il dit, voilà Seigneur, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Et on peut tous prier. Quelle force de pouvoir prier. Et après, à la fin, il y a un choix. Qu'est-ce que je vais choisir ce matin? Verset 11 ici, il dit, j'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Je choisis. Qu'est-ce que moi je vais choisir? Est-ce que je vais choisir Dieu? Ou je vais, il dit, je peux résider sous les tentes de la méchanceté. Il y a la résidence Château Blanc chez nous. Mais il y a aussi une résidence de méchanceté, c'est pas... Peut-être on connaît cette résidence. Quelquefois, nous habitons nous-mêmes. Quelquefois, quand notre langue est un peu trop acérée. Mais il y a d'autres qui vivent sous les tentes de la méchanceté. Je ne sais pas pourquoi les gens ils sont si méchants, quelquefois. Mais moi, j'ai choisi. Je ne vais pas les suivre. C'est trop facile de vivre sous les tentes de la méchanceté. Mais moi, je vais vivre dans la présence de Dieu. Et quand vous vivez dans l'intégrité, quand vous vivez dans l'amour, vos jours ont de la valeur. Parce qu'il dit... Verset 11, « Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Hein? » Suis-je ailleurs? Il ne faut pas vivre ailleurs sous les tentes de la méchanceté. Il n'y a aucune valeur d'une vie vécue sous les tentes de la méchanceté. Même si vous vivez 1000 ans, même si vous récupérez des millions d'euros sous vos tentes de méchanceté, il n'y a aucune valeur là-dedans. Un jour dans l'intégrité, un jour dans l'amour, un jour avec le Saint-Esprit et Jésus dans le cœur, ça vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Et il ne faut pas jalouser les méchants, il ne faut pas jalouser les gens qui sont orgueilleux et qui écrasent, parce que ça sert à quoi 1000 jours ailleurs, un jour dans ta présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse pas le bonheur. C'est si vous voulez être heureux. Oui, je veux être aimé. Je veux avoir un sens à ma vie. Il ne refuse pas ça. Cherche-le. Choisis-le dans le cœur. Et à ceux qui marchent dans l'intégrité, l'Éternel des armées, tu ne refuses pas. Tu ne refuses pas le bonheur. Et bien sûr, il y a 3 heureux dans ce psaume. Je vous laisse avec les 3 heureux. Heureux. Parce qu'on veut être heureux, être aimé, avoir un sens à notre vie. Heureux. Ceux qui habitent ta maison. Verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ça veut dire qu'ils ont une relation avec Dieu. C'est les gens qui habitent dans ta maison, vous avez une relation avec eux. Et si vous voulez habiter avec Dieu, il faut développer une relation avec lui. Croire qu'il est mort pour tes péchés. Croire qu'il est ressuscité maintenant et vivant par le Saint-Esprit en eux. Croire qu'il vous aime. Croire à la prière. Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux les hommes dont la force est en toi. Allez, fortifie-moi, Seigneur. Ça, c'est la foi. La foi est une force. Et après, heureux l'homme. C'est le dernier verset. Heureux l'homme qui se confie en toi. Et ça aussi, il faut avoir beaucoup de foi. Se confier à l'Éternel. Vous vous confiez à qui? Ah, ma belle-mère, non. Mon père, ma femme. C'est bien d'avoir des confiants, des gens en qui on peut se confier. Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Et c'est le choix que je vous donne ce matin. Choisissez de vous confier en l'Éternel, d'avoir cette vie de prière, d'avoir cette vie qui est enracinée et qui demeure dans l'amour. Et donc, Seigneur, merci pour ces moments partagés. Merci pour le témoignage d'Odette, Seigneur. Et elle nous a bénis ce matin. Et Seigneur, nous prions encore, Seigneur, que ton amour touche nos cœurs. Je choisis, Seigneur, de vivre. Je vraiment, ce matin, Seigneur, je veux choisir de vivre avec toi, Seigneur. Je te demande de réveiller mon premier amour pour toi, Seigneur. Je te demande de réveiller tout ce que je n'ai pas utilisé depuis, comme un muscle qui n'est pas utilisé, Seigneur. Je te demande de réveiller ma foi, Seigneur, que je puisse utiliser ce muscle de foi. Je choisis ce matin de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Je veux marcher dans l'intégrité. Et Seigneur, je veux me confier en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.